un podcast France Culture.
L'heure d'Avec Science avec vous, Pierre Aupert, vous officiez toute la semaine et bonjour.
Bonjour Quentin Lafay, bonjour à toutes et tous.
Et après nous avoir parlé hier de pollution sonore et d'embryons, nous allons discuter ce matin de pollution aérienne et de fœtus.
C'est vrai, mais hier nous avons parlé d'oiseaux, tandis qu'aujourd'hui nous allons nous concentrer sur des êtres humains. Et cela en raison d'une étude française publiée mardi dans la revue The Lancet qui s'intéresse à la façon dont la pollution aérienne peut impacter le développement des fœtus en passant par le placenta. On pourrait penser que dans le ventre de sa mère, le fœtus est à l'abri des particules de pollution, mais pas du tout. La pollution aérienne est depuis longtemps soupçonnée d'être à l'origine de pathologies cardiaques ou respiratoires chez l'enfant à naître. Or, dans cette nouvelle étude, une équipe de recherche de l'INSERM s'est justement demandé comment ces maladies, qui surviennent durant l'enfance, peuvent résulter d'expositions très très précoces à des polluants aériens.
Et ces expositions très précoces, Pierre, débuteraient donc avec le placenta ?
Exactement, le placenta est un organe crucial au cours de la grossesse. C'est ce dernier qui va soutenir la santé de la mère tout en assurant le bon développement de l'enfant. Il régule notamment les échanges en oxygène et en nutriments entre la mère et le fœtus. Mais le placenta a beau être une barrière, il a déjà été prouvé que des particules de pollution atmosphérique peuvent l'atteindre et le traverser. Les scientifiques se sont donc penchés sur les mécanismes épigénétiques dans le placenta lui-même. C'est ce qu'explique Johanna Lepeul, chercheuse à l'INSERM et épidémiologiste environnemental, qui a dirigé cette étude.
Donc l'épigénétique, c'est très simple. En fait, il y a les gènes, l'ADN, dont chaque individu est constitué. Ça, c'est quelque chose de fixe. Ça ne bouge pas au cours de la vie, au cours du temps. C'est comme une partition de musique qui a été écrite. La partition, elle ne bouge pas. Par contre, la manière dont vont l'interpréter les musiciens et l'orchestre va faire que certaines notes seront plus ou moins appuyées ou jouées plus ou moins fort. Et bien, c'est pareil pour nos gènes et notre ADN. Les marques épigénétiques vont faire que certains gènes vont être exprimés de manière plus ou moins intense. Et c'est cette régulation épigénétique à laquelle on s'est intéressé ici. Contrairement à la génétique qui ne bouge pas au cours du temps, ces marques épigénétiques, elles vont pouvoir évoluer tout au long de la vie. Donc, par exemple, la pollution de l'air qui pourrait influencer ces marques épigénétiques dans le placenta. Cette modification épigénétique du placenta, elle va pouvoir persister ou s'atténuer au cours du temps par des processus qui sont soit naturels, soit on peut tout à fait imaginer aussi développer des médicaments qui vont venir agir sur ces marques épigénétiques.
En fait, ce que les scientifiques ont étudié, c'est l'exposition de 1500 femmes pendant leur grossesse à trois polluants aériens, le dioxyde d'azote et les particules fines inférieures à 10 et à 2,5 microns. Ces polluants proviennent pour l'essentiel du trafic de voitures, de chauffage urbain, des industries ou encore de l'agriculture. Et comme l'ont confirmé les chercheurs, ils altèrent bel et bien des gènes impliqués dans le développement fœtal. Un tiers des modifications qu'ils provoquent sont même liées au développement de l'enfant. Elles influent ainsi sur la durée de la grossesse, le poids, et la taille à la naissance, ou encore le périmètre crânien du nouveau-né. Mais d'autres modifications ont, elles, un impact bien plus profond encore.
Ce que l'on a montré, c'est qu'effectivement, plus les femmes étaient exposées à ces polluants de l'air, que ce soit le NO2, les PM10 ou les PM2,5, plus on observait de modifications épigénétiques. Avec, de manière intéressante, ces modifications épigénétiques, elles se produisaient sur des gènes dont on sait qu'ils sont impliqués dans le développement du fœtus et sur des gènes qui sont également impliqués dans le développement du système métabolique, du système immunitaire et du système nerveux. Donc ça, c'était un premier point. Et ce que l'on a observé aussi, c'est que ces effets des polluants de l'air sur ces marques épigénétiques placentaires, ils pouvaient, dans certains cas, être différents chez les filles et chez les garçons. Par exemple, chez les garçons, on a observé plus de modifications sur des gènes qui sont impliqués dans le développement du système nerveux, alors que chez les filles, on a observé plus de modifications qui sont impliquées dans la production de stress oxydant, qui va ensuite pouvoir être associé au développement de maladies chroniques métaboliques.
Suite à ces modifications, les filles pourraient bien avoir plus de risques, par exemple, de développer des maladies comme l'hypertension, le diabète néonatal ou encore l'obésité. Les garçons, eux, risquent une atteinte du neurodéveloppement ou une réduction de leur capacité cognitive.
Mais pourquoi, Pierre, y a-t-il une différence selon le sexe des enfants ?
Eh bien, c'est parce qu'au cours du développement fœtal, les mécanismes physiologiques diffèrent assez rapidement chez les garçons et les filles. Les périodes de vulnérabilité aux modifications modifications génétiques ne sont donc pas les mêmes au cours de la gestation. Elles prennent place au cours du premier trimestre chez les garçons et plutôt vers la fin de la grossesse pour les filles. Maintenant, la prochaine étape pour les scientifiques consistera à suivre l'évolution de ces filles et de ces garçons, à suivre leur état de santé à mesure qu'ils grandiront. Car si ces modifications épigénétiques s'avèrent inquiétantes, elles pourraient bien aussi s'avérer réversibles.
Merci beaucoup Pierre Roper et merci à vous d'être à l'écoute de France Culture. Nous sommes le vendredi 10 mai 2024, il est 7h. Le journal Diane Berger, bonjour.